Daftetva Vamudalef à la deuxième ligne. Goufa. Donc on revient sur un enseignement qu'on avait vu plus haut. Amar Raviuda Mar Shmuel. Raviuda a dit le nom de Shmuel. Shmona Asar Gazrou, Bishmona Asar Nachleku. Qui a 18 choses qu'ils ont décrétées. Et sur ces 18 choses, il y avait une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara demande, Vatania, pourtant, c'est dans la Brita, Houchvou. Ils étaient d'accord. La Gemara répond, Bobayom Nechleku, Ulmachar Houchvou. Donc ce jour-là, le jour où ils étaient dans le grenier de Hanania ben Chizkia ben Garon, ils étaient en Mahloket, et ils ont fait un compte, et les Talmidim de Bet Shammai étaient plus nombreux que ceux de Bet Hillel, et donc la halakha était fixée comme ça, et le lendemain, les Talmidim de Bet Hillel se sont rangés à l'avis de Bet Shammai. Goufa, on revient sur un autre enseignement qu'on avait vu précédemment, Amar Ravuna, Ravuna a dit, Bishlosha mekomot nechleku Shammai ve Hillel, il y a trois endroits où Shammai et Hillel étaient en désaccord. Lesquels? Le premier, c'est Shammai Omer Mikav Chala. Shammai dit qu'on prélève la Chala d'une quantité d'un cave de farine. Hillel Omer Mikabaim. Alors que Hillel dit qu'on ne prélève que de la quantité de deux kabim. Vachachamim Urim, lo kedivreze ve lo kedivreze, et la kav umersa chayav bechala. Et Chachamim disent, ni comme l'un ni comme l'autre, mais on prélève la quantité. Donc on prélève la challah de la quantité de farine de 1 cave et demi. C'est 1 cave et demi qui est chav de challah, et pas comme l'avis de Shammai qui dit 1 cave, ni comme Hillel qui dit 2 cavim. Alors pourquoi cette quantité de cave ou mersa, de 1 cave et demi? Dans le pasouk c'est écrit qu'on prélève la challah de Réchit Arisotechem, donc de vos pâtes. Et de là, on apprend qu'est des Issat Midbar, la quantité de pâtes qu'ils avaient dans le désert. C'est-à-dire la quantité de manne qu'ils récoltaient dans le désert. La quantité de manne, c'est un homer. Et le homer, c'est écrit que c'est Asirit Efa, un dixième de Efa. Alors, le Efa, la Efa fait 3 séines, la Sea fait 6 cabines, le Kav fait 4 lougines, et le Log fait 6 betim. Donc, c'est-à-dire que la Efa, si on traduit en cabine, ça fait 18 cabines. Donc, un dixième de ça, normalement, c'est 1,8. Alors, pourquoi Chachamim disent 1,5? 1,5 parce que 18 cabines, la FA qui fait 18 cabines, c'est, selon les mesures qu'on appelle la mesure midbari. Donc, c'est cabine midbari. Alors que les mesures ont été agrandies plus tard. Et ici, Chachamim parle selon la mesure Yerushalmi. La mesure Yerushalmi a été augmentée d'un cinquième, donc 1,5 kavin de kavin Yerushalmi, ça correspond à 1,8 kavin de kav Midbari. Ce qui correspond en fait à 43 betim, au volume de 43 œufs et un cinquième d'œuf. Et Shammai et Hillel par contre pensent que la quantité c'est de 2 kavin. Pourquoi? Parce que lui pense que quand on dit un dixième de Efa, c'est un dixième de Efa, ce qu'on appelle milébar. Ça veut dire en fait un dixième d'une Efa plus le dixième. Donc ça veut dire en fait c'est un neuvième de Efa. Donc ce qui correspond à 2 cabines. Et Shammai, pourquoi est-ce que Shammai dit que c'est un cave? Parce que lui pense que la quantité de laquelle il faut prélever challah, c'est la quantité d'un repas. La quantité de Asirit Efa de 2 cabines que Hillel a indiqué, c'était pour 2 repas. Et on prélève la challah déjà sur la quantité d'un repas, c'est-à-dire un cave. La Braïta continue et dit, Mishé Igdilou Amidot, une fois qu'ils ont à nouveau augmenté les mesures, ça veut dire que après cette Mida Yerushalmi dont on a parlé, il y a une autre fois, ils ont encore augmenté les mesures de 1 cinquième, à Tzipori, donc ce qu'on appelle la Mida Tzipori, Amrou, Chameshet Revaim, Kema, Chavim, Mechala, à ce moment-là, ils ont dit que 5 quarts de cave de farine est Chalav de Chala. Donc ça veut dire que 5 quarts, c'est 1,25. Donc comme on a ajouté un cinquième aux mesures, donc 1,25 cave de la nouvelle mesure correspond à 1,5 cave de l'ancienne mesure de Yerushalmi, ce qui correspond à 1,8 kav de la première mesure qui est la mesure Midbari. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Chamisha Pturim, Chamisha Veod Chayavim. lui dit que si c'est exactement 5 quarts de cave de farine, c'est encore patour, et c'est chayav seulement si il y a chamisha ve'od, ça veut dire un peu plus que 5 quarts. Pourquoi? Parce que lui pense que à leur époque, les œufs étaient plus grands que les nôtres, enfin que ceux de son époque à lui. Donc, il dit il faut ajouter encore un petit peu à cause des œufs qui sont devenus plus petits. Veidach, et quelle est la deuxième machloket entre Shammai et Hillel? Hillel Omer Melohin Maim Shuvim Poslim Et HaMikveh. Hillel dit que la quantité d'un hin, alors un hin c'est 12 lougins, ça veut dire en fait une demi-séa, puisque une séa c'est 24 lougins, donc le hin qui fait une demi-séa ça fait 12 lougins, donc cette quantité de 12 lougins d'eau qui est shuvim, c'est-à-dire a été contenue dans un keli, rentre pas sous le mikvé. Ça veut dire que si avant qu'il y ait la quantité nécessaire pour le mikvé, la quantité d'eau de pluie de 40 CA, on a mis dedans cette quantité d'un hin d'eau qui provenait d'un keli, donc il n'est pas valable pour le mikvé, ça rentre pas sous le mikvé, même si après on complète la quantité jusqu'à 40 CA d'eau de pluie, le mikvé restera passoul. Par contre, si le mikvé contenait déjà 40 CA d'eau de pluie, qui n'est pas passé par un keli, là, même si on ajoute autant d'eau qu'on veut, de maïm shéouvin, d'eau qui a été puisée, ça ne rend pas passoul. Et la Mishnah ajoute, Shechaya vadam lomar bilshon rabo, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Hillel a employé ce terme de hin, alors que hin c'est un langage de la Torah, mais c'est pas le langage normal de la Mishnah. Normalement, dans la Mishnah, on s'exprimait pas de cette manière-là. On aurait dit 12 lougines ou une demi-séa, on n'aurait pas dit un hin. Donc pourquoi est-ce qu'il a dit comme ça? Parce que c'est comme ça que ses maîtres, Shmaya et Avtalion, c'est comme ça qu'ils avaient exprimé ça. Or, on avait vu cette règle qu'il faut toujours répéter dans les termes de son rav. On avait vu ça dans Maseret Brachot. Shamay dit, Tish'a kabin, c'est 9 kabines d'eau de Maïm Shehouvin qui est passée par un keli, qui rend pas sous le mikvé si on l'a versé dedans avant qu'il y ait 40 CA d'eau de pluie dans le mikvé. Rachamim omrim, l'eau qui est divrezé, velo qui est divrezé. Et Rachamim disent, ni comme l'un ni comme l'autre, mais ils n'ont pas défini la quantité. Ad shebaouchne gardi, mishar hashpa shebeushalayim, jusqu'à ce que sont arrivés deux tisserands de Shahar Hashpa de Yerushalayim, Veidu Mishum Shmaya Vavtalion, Sheshosha Lugin Maim Shehuvin Poslim Et HaMikveh, et ils ont témoigné au nom de Shmaya Vavtalion que trois lougines d'eau qui a été contenue dans un keli rentrent pas sous le mikvé, et qui Mouchachamim Adivrehem, et les Chachamim ont validé leurs paroles. Donc finalement c'est comme ça qu'on tranche, que trois lougines d'eau de Maim Shehuvin qui est passée par un keli rend pas sous le mikvé. Alors Rashi rapporte de Maseret Edouyot, pourquoi est-ce qu'on a cité ici quel était leur métier et d'où est-ce qu'ils venaient? C'est pour nous apprendre que il faut jamais négliger de venir au Beit HaMidrash, parce que le métier de tisserand était le métier le plus bas. Et la Gemara a dit dans Kiddushin que un tisserand, on ne peut pas le nommer Kohen Gadol ni roi. Et l'endroit le plus bas, Yerushalayim, c'était Shahar HaHashpot, l'endroit le moins important. Et malgré tout, avec leur témoignage, on a tranché la halakha comme leur témoignage. Veidach, et la troisième machloket entre Shammai et Hillel, Shammai Omer Kol Anashim Dayan Shatan. Donc c'est la première Mishnah de Nida. Shammai dit que toutes les femmes Dayan Shatan, il leur suffit leur moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui est devenue Nida, qui a eu un écoulement de sang, elle devient tamée, elle devient donc interdite à son mari d'une part, mais aussi elle a une touma, elle est avatouma, et si elle touche des aliments, elle les rend tamées. Et on a une machloket dans cette Mishnah de Nida, à partir de quand, lorsqu'elle a un écoulement, à partir de quand elle rend tamée ce qu'elle a touché, les aliments qu'elle a touchés. Shammai dit seulement à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. Veilal omer mipkida lepkida va filou leyamim arbe. Et Hillel dit que elle rend tamée depuis la dernière vérification, depuis la dernière bdika qu'elle a faite, même s'il y a plusieurs jours qui se sont écoulés depuis. Pourquoi? Parce que, en réalité, une femme devient Tuméa, devient Nida à partir du moment où le sang est sorti de l'utérus. Même s'il n'est pas encore sorti à l'extérieur du corps, même s'il est encore à l'intérieur du vagin, ça la rend déjà Tuméa. Or, elle dit que lorsqu'elle constate l'écoulement, on ne sait pas à partir de quand le sang est sorti de l'utérus. C'est possible qu'il soit sorti déjà avant et que les parois du vagin l'aient retenu et c'est pour ça qu'il n'est pas sorti à l'extérieur et qu'elle ne l'a pas constaté. Mais en fait, peut-être qu'elle était déjà tuméa avant. Donc c'est pour ça que depuis la dernière bdika où on est sûr que à ce moment-là, la dernière bdika où elle avait constaté qu'elle n'avait pas de sang, donc jusqu'à ce moment-là, on est sûr qu'elle était théora. Mais à partir de ce moment-là, on a un safek et dans le doute, il faut considérer qu'elle est tuméa. Alors que Shammai, lui, pense que les parois du vagin ne retiennent pas le sang et donc il sort immédiatement à l'extérieur. Chachamim omrim et Chachamim disent lo kedivreze ve lo kedivreze, ni comme Shammai ni comme Hillel, et la me'et le'et me'et aliyad mifkida lepkida ou mifkida lepkida mais me'et aliyad me'et le'et. Donc selon Chachamim, si la dernière vérification était il y a plus de 24 heures, elle ne sera considérée comme Tmea que dans les dernières 24 heures qui précèdent la constatation de l'écoulement. Donc c'est ça, Me'et Le'et, Me'et Aliyad Mifkida Mifkida, c'est-à-dire le temps de Me'et Le'et des 24 heures diminue le Mifkida Mifkida, le temps d'une vérification à l'autre. Ça veut dire que si la vérification avait lieu depuis plus de 24 heures, elle n'est considérée comme Tmea que dans les dernières 24 heures. Ou Mifkida Mifkida, Me'et Aliyad Me'et Le'et, et inversement, si elle avait fait une vérification il y a moins de 24 heures, et qu'à ce moment-là, cette vérification s'est avérée théora, donc elle ne sera pas tamée dans les dernières 24 heures, mais seulement depuis la dernière vérification. Agmara demande, vers tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas de marchoquette entre Shammai et Hillel? Veika, Hillel omer lismor, ve Shammai omer shelo lismor. Mais il y a encore cette marchoquette, que Hillel dit que on fait la smicha sur le korban pendant Yom Tov, donc les corbanotes pour lesquels il faut faire smicha, Hillel dit que même pendant Yom Tov, on fait la smicha, bien que le fait de s'appuyer sur un animal, parce que la smicha c'est s'appuyer de toutes ses forces, on n'a pas le droit d'utiliser un animal pendant Yom Tov, c'est une gzera des rabbanan, donc a priori c'est assour, mais Hillel pense que comme il y a une histoire de faire la smicha juste avant la shrita, que la smicha soit juste avant la shrita, que la shrita suive immédiatement la smicha. Donc c'est pour ça que on peut faire la smicha par Yom Tov. Shammai omer shelo lismor. Alors que Shammai dit non, on fera pas la smicha par Yom Tov, on la fera avant, même si c'est longtemps avant la shrita, mais la gzera des chachamim est maintenue. Donc on voit qu'il y a encore une machloket entre Hillel et Shammai. La Gemara répond ki kamar Ravuna echa delika plukta de Ravata be'adayu. Quand est-ce que Ravuna a dit qu'il n'y a que trois machlokotes, c'est des machlokotes qui n'ont pas été discutées entre les rabbanim avant eux. Par contre, cette machlokette à propos de la smicha, c'est une ancienne machlokette qui existait entre les zugot, dans la Mishnah dans Pirkei Avot, dans le premier Perek, on cite les zugot, plusieurs couples de chachamim, dont le premier était Nassi et le deuxième Av Bet Din. Donc Yosef ben Yerizer et Ishtereda et Yosef ben Yochanan et Shirushalayim, etc. Shmaya Yartalion. Et donc tous ces zougotes avaient déjà cette machloquette avant Hillel et Shammai. La Gemara demande, Vaika abotser legat, Shammai omer urchar, Hillel omer le urchar. Pourtant il y a encore une machloquette. C'est à propos de celui qui est botser legat, ça veut dire qui vendange le raisin dans l'intention de le presser, dans l'intention de l'amener en pressoir, au pressoir, donc c'est-à-dire d'en faire du vin. Shammai dit que ce raisin est hurchar le kabel touma, c'est-à-dire qu'il a été préparé à recevoir la touma. On avait déjà vu que pour que un fruit reçoive la touma, puisse recevoir la touma, il faut qu'il ait été mouillé au préalable et qu'il ait été mouillé intentionnellement, en tous les cas qu'on soit intéressé par le fait qu'il ait été mouillé. Donc Shammai dit que quand on vendange du raisin pour le presser et qu'il y a donc un peu de jus qui sort de ce raisin et qui coule sur les raisins, bien que finalement il va être perdu parce que ça va couler par terre quand il est dans le panier, ça va couler à travers le panier et ça va tomber par terre, donc ça va être perdu. Et donc a priori il n'y a pas d'intérêt dans ce jus. Malgré tout, Shammai considère que les raisins sont devenus aptes à recevoir la Touma. C'est une xéra des Chachamim, de peur qu'ils vendangent dans des récipients qui sont étanches, et que à ce moment-là le jus va rester et qui va être intéressé par ce jus. Donc là, c'est véritablement Rochar le Kabel Touma. Donc c'est pour ça que Shammai dit que même dans le cas où il est perdu, les Chachamim ont fait une xéra. Mais Hillel Omer lo Rochar, alors que Hillel dit que ça n'a pas été Urchar le Kabel Touma, c'est pas devenu apte à recevoir la Touma, puisque justement ça va être perdu. Alors on parle ici uniquement de Botser Lagat, celui qui vendange pour le presser, parce que là effectivement le but c'est de faire du jus, de faire du vin avec. Donc là on peut considérer que il est intéressé par ce jus. Alors que si il vendangeait pour manger ce raisin, là, c'est sûr que comme il n'est pas intéressé, ça ne rend pas Urchar le Kabel Touma. Alors donc en tous les cas, la Gemara demande, mais finalement on a encore une machloket entre Shammai et Hillel. La Gemara répond, Mar Binei Dehai, en dehors de celle-là, c'est-à-dire celle-là n'est pas comptée dans les machloket entre Shammai et Hillel, Dehatam Kachatik le Hillel et Shammai, parce que là-bas, finalement, Hillel s'est tu devant Shammai, c'est-à-dire que il a fini par accepter l'avis de Shammai, comme on verra plus loin dans la Gemara. On revient à ce que la Gemara avait rapporté plus haut, une braïta qui cite différentes xérotes qui ont été faites au fil des années. Yosef ben Yoézer, Ishtredav, Yosef ben Yochanan, Yerushalayim, Gazru, Touma, Aleret, Saamim, Valkele, Zchuchit. Donc Yosef ben Yoézer de Tzereda et Yosef ben Yochanan de Yerushalayim ont décrété que la terre des nations, c'est-à-dire les terres en dehors d'Israël, les terres des Goïm, seraient tamées, valklez ruchit, et également sur les ustensiles en verre, qu'ils reçoivent la Touma, même si Minatora, ils ne reçoivent pas la Touma, ils font pas partie de la liste des matières qui reçoivent la Touma. Agma demande, vea rabbanan deshmonim shana gazur. Mais pourtant, cette xéra, ces deux xérotes ont été faites par les Chachamim qui étaient 80 ans avant la destruction du Beit HaMikdash. D'Amar Rav Kahana, parce que Rav Kahana a dit que Shechala Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, lorsque Rabbi Ishmael Rabbi Yossi est tombé malade, Shalchulo Rabbi est mort lanou shtaim ve shalosh dvarim she'amarta mishum avicha. Donc les Chachamim lui ont envoyé, ils lui ont demandé, dis-nous deux ou trois choses que tu as dit au nom de ton père. Son père c'était Rabbi Yossi ben Chalafta, donc ils veulent recevoir des enseignements de son père Rabbi Yossi ben Chalafta, donc ils lui demandent de leur citer de ces enseignements-là. Shalach Lahem, il leur a envoyé dire, Kach Amar Abba, voilà ce que mon père a dit, Me'a Shmonim Shanat Shelo Charav Abayit Pashta Malchut HaResha al Israël. 180 ans avant la destruction du Beit HaMikdash, le gouvernement romain a commencé la conquête d'Eretz Israël. Donc ils ont commencé déjà à dominer les Bnei Israël, déjà 180 ans avant la destruction de Beit HaMikdash, Shmonim Shanat Shelo Charav Abayit Gazru Touma Aleret Saamim Al Kleiz Ruchit. 80 ans avant la destruction de Beit HaMikdash, ils ont décrété la Touma sur les pays des Goïm et la Touma pour les ustensiles en verre. Arbaim Shanat Shelo Charav Abayit Galta La Sanhedrin Veyashvala Bechanuyot. 40 ans avant la destruction du Beit HaMikdash, le Sanhedrin a quitté Lishkat HaGazit, qui était son endroit, et ils se sont installés dans les Chanouyot, c'est un endroit dans Arabaït. Et la Gemara explique donc ce dernier point, l'Ema Ilcheta, pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça, que le Sanhedrin n'était plus à Lishkat HaGazit, mais ailleurs. Amar Rav Yitzhak Bar Avdimi, Lomar Shelo, Danu Dine Knasot. Donc Rav Yitzhak Bar Avdimi a dit, c'est pour nous dire qu'il ne jugeait plus les dinim de Knasot, ce qui est Knas et ce qui n'est pas Mammon, donc c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, le paiement du Kefel pour quelqu'un qui a volé, pour un ganave. Donc le Kefel, c'est un Knas, ou ce que doit payer un Honnès ou un Faté, etc. Donc ces différents Knasot, il ne les jugeait plus parce qu'il ne pouvait les juger que à Lishkat HaGazit. La Gemara demande, dîner Knasot, c'est le cas d'Atar. Est-ce que tu penses que, effectivement, les dîner Knasot, il ne les jugeait plus à cet endroit, on n'a pas besoin de Lishkat HaGazit pour ça. Et la Ima Shelo Danu Dine Nefashot, mais il faut dire qu'il ne jugeait plus les Dine Nefashot, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de condamnation à mort. Alors, ça veut dire nulle part, parce qu'en réalité, c'était pas seulement le Sanhedrin de Lishkat HaGazit qui qui jugeait de ces affaires de Dinah et Fachot, mais nulle part on ne jugeait Dinah et Fachot à partir du moment où le Sanhedrin n'est pas Lishkat HaGazit. Il faut que le Sanhedrin soit Lishkat HaGazit pour qu'ailleurs on puisse juger des Dinah et Fachot. Donc une fois qu'ils ont quitté Lishkat HaGazit, ils ne jugeaient plus les Dinah et Fachot. Et pourquoi? Parce que justement, pourquoi est-ce que le Sanhedrin s'est exilé et sorti de Lishkat HaGazit? C'est parce qu'il y avait de plus en plus d'assassins et qu'il ne pouvait pas juger et condamner autant de gens. Donc, ils sont passés ailleurs pour ne pas avoir à juger de ces affaires. Vechitema, alors, en tous les cas, on voit que ça a été décrété 80 ans avant la destruction de Beth Amikdash, c'est de Xérot, de Touma des pays des Goïm et la Touma des ustensiles en verre. Vechitema ben Shmonim Shalan Ami Inhu Avu. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire effectivement, c'est Yossi ben Yoezer Ishtada et Yossi ben Yochanan Ishirushalayim qui ont décrété ça 80 ans avant la destruction de Beth Amikdash. On m'a dit non, c'est pas possible. Atania pourtant enseignant à Breita. Hillel ve Shimon, Gamliel ve Shimon, Agun et Siyutan, Bifne Abayit me Hashana. Donc, Hillel et Shimon qui était son fils, le fils de Hillel, Gamliel, donc c'est Rabban Gamliel Azaken, et Shimon, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui était des Harugé Malchut, et c'est pas celui qui est mentionné dans la Mishnah, qui est en fait son petit-fils. Donc ces quatre Tanaïm, Hillel, Shimon, Gamliel et Shimon, ils ont exercé leur Nesiout en présence du Beth Amikdash pendant 100 ans, c'est-à-dire dans les 100 dernières années du Beth Amikdash avant qu'il soit détruit. Veilu Yossi ben Yoezer Ishtzadav et Yossi ben Yochanan Avukad Metuva. Alors que Yossi ben Yoezer Ishtzadav et Yossi ben Yochanan étaient bien longtemps avant l'époque de Hillel, comme on voit dans Maseret Avot, qui sont cités dans l'ordre chronologique, et Yossi ben Yoezer Ishtzadav et Yossi ben Yochanan et Yerushalayim sont cités bien avant Hillel et Shammai. Donc, ça veut dire que forcément, 80 ans avant la destruction de Beth Amikdash, c'est pas eux qui ont pris ces décisions, ils étaient bien avant ça. Donc, comment se fait-il qu'on ait dit que c'est eux qui l'ont fait, alors que cet enseignement de Rabbi Yossi ben Khalafta, on voit que ça a été décrété 80 ans avant la destruction de Beth Amikdash. Agma répond, et là, tout inhu, gazur agusha lisrof va'avira veloklum. En fait, il y a eu deux étapes dans cette Xéra. Première étape, c'est Yossi ben Yoezer, Ishtereda, Yossi ben Yochanan, Yerushalayim, qui ont décrété sur la terre des pays des Goïm qu'elle rendait tamé la Touma et qu'il fallait la brûler. Alors, comme on avait déjà dit, la Touma de la terre des Goïm, c'est pourquoi? Parce que, comme les Goïm ne signalent pas les tombes, donc on a un doute. Est-ce que chaque endroit, chaque morceau de terre peut contenir des bouts d'ossements d'un mort, d'un cadavre, et même les cadavres des goïms rendent tamé au moins Bemagal Amasa et peut-être même Boel. Donc, c'est-à-dire selon les avis, c'est une marloquette. Donc, ils ont décrété que comme on ne sait pas s'il y a des cadavres ou des ossements dans la terre des goïms à chaque endroit, on peut supposer qu'il y en a peut-être. Donc, ils ont décrété que si la terre des pays des goïms entrait en contact avec la Touma, qu'il faudrait brûler la Touma. Donc, même si on a par exemple apporté un morceau de terre, une motte de terre en Eretz Israël, mais qui provient de Chutz La'aretz, et que la Touma a touché cette motte de terre, il faudra la brûler. Ve'avira ve'loklum. Mais sur l'air, l'espace des pays des Goïms, ils n'ont rien décrété du tout. Donc à l'époque de Yossi ben Yoezer et Yossi ben Sereda. Et Yossi ben Yochanan, pardon. Ve'atu Rabbanan, et les Chachamim sont venus, Rabbanan des Shmonim Shana, les Chachamim qui étaient 80 ans avant la destruction du Beth Amikdash, Gazur Avira Litlot, et eux, ils ont décrété que la Trouma qui se trouverait dans l'espace des pays des Goïms, il faudrait la suspendre, donc ça veut dire on peut pas la consommer, on la brûle pas non plus, donc on la considère comme safektamée, et donc on la laisse s'abîmer, ni on la mange, ni on la brûle. Donc, ce qui explique que, une fois on est dit que c'est Yossi ben Yoezer, Ishtenada et Semenu Khanan Shirushalim qui ont fait ce décret, et une autre fois on a dit que c'est 80 ans avant la destruction de Betamigdash. Alors Tosfot pose la question, ça répond effectivement sur la Xéra de la Touma de Eretz Ha'amim, mais ça ne répond pas à la question de la Xéra des Kles Ruchit, la Gemara ne répond pas à ça. Tosfot rapporte qu'il y a une autre Gersa dans la Gemara qui dit que au départ, quand Yossi ben Yehuda et Yossi ben Yochanan avaient fait cette Xéra, le public ne l'avait pas acceptée, et qu'après, elle a été à nouveau décrétée par les Chachamim qui étaient 80 ans avant la destruction de Beth Amikdash. Cette fois, elle a été acceptée, et donc ça répondrait aux deux questions. Il y a beaucoup de Rishonim qui se penchent sur la question de Tosfot. La Gemara demande, les membres des Chadak, Zerta, Aval et Srefa, est-ce que tu veux dire que quand ils ont fait cette Xéra à propos de la terre des pays des Goïm, c'était une seule Xéra, ça a été fait en une seule étape, et directement la Xéra était que la Trouma qui touche cette terre, il faut la brûler. Ve'amar Ilfa, pourtant Ilfa a dit, Yadaim Triat Xeratan Esrefa, que la Xéra des Chachamim de considérer les mains comme Tamé Sheni la Trouma, qui rend Tamé la Trouma, là depuis le départ, la Xéra était de brûler la Trouma qu'on touche avec ses mains, avec Stam Yadaim, si on n'a pas fait une Tiyat Yadaim. Yadaim ou Detrilat Xeratan Esrefa, Amidi Achrinalo. Donc ça suppose que c'est seulement cette Xéra-là qui a été faite depuis le départ qu'il faut brûler la Trouma qu'on touche avec les mains. Mais pour les autres Toumaot, ça s'est passé en deux étapes. Et qu'au départ, ils avaient seulement fait une Xéra d'être tolé, de suspendre la Trouma qui touche la terre la terre des Goïm, et après, plus tard seulement, ils ont fait Xéra de brûler cette Trouma. Et là, tout inhu gazura gusha litlot va vira veloklum. Donc la Gemara a rectifié, elle dit, en fait, Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan, lorsqu'ils ont fait la Xéra, ils ont fait effectivement la Xéra que la terre des goyim, quand elle touche la Trouma, on suspend cette Trouma, va avira veloklum, ils n'ont rien décrété à propos de l'espace des pays des goyim, va tourabanan des shmonim shana, gazur agushalisrof, va avira litlot. Et les chachamim de 80 ans, qui étaient 80 ans avant la destruction de Beth Amikdash, eux, ils ont fait deux modifications. D'abord que la Trouma qui touche la terre des goyim, il faut la brûler, et pas seulement la suspendre, et que la Trouma qui est dans l'espace des pays des Goïm, on la suspend. La Gemara demande « Vakate Beaucha Gazur ?» Mais ça, il reste encore une question, c'est que cette Xéra a été faite à Ucha, donc encore bien longtemps après tout ça, puisque c'est après la destruction du Beth Amikdash, d'Etnan, comme on enseigne dans la Mishnah, Al-Shisha Sfekot Sorfim Natatruma, il y a 6 cas de Safek, on a un Safek de Touma, pour lequel on brûle la Touma. C'est quoi ces 6 cas? Al-Safek Betapras, sur le Safek d'un Betapras. Betapras, c'est un endroit où il y a une tombe, mais on ne sait pas où elle se trouve. Donc tout le terrain, c'est un Safek Touma. Donc lorsque une Touma rentre dans ce terrain, elle devient tamée dans le doute et on la brûle. Va le safek afar abba meretz amim, et sur le safek de la terre qui vient des pays des goyim, là aussi comme on a dit c'est un safek de touma, peut-être que cette terre contient des ossements et donc qu'elle rend tamée, donc là aussi on brûle. Va le safek bigde amaretz, et sur le safek des vêtements d'un amaretz, ça veut dire que on a un safek pour tous les vêtements d'un maharetz, peut-être que sa femme Nida s'est assise dessus, si elle s'est assise dessus, elle les a rendus tamés. Donc, un vêtement d'un maharetz, on considère comme tamé à cause de ça, même si c'est un doute à la base, et on brûle la trouma. Va le safek kelim animtsaïn, le safek des ustensiles qu'on trouve, si on trouve des ustensiles dans la ville, dans la rue, ils sont peut-être tamés, et ils rendent tamé la trouma et on la brûle. Va le safek arokin, et sur le doute de la salive, si on trouve de la salive, peut-être que ça provient d'Azav et donc que c'est tamé. Donc là aussi on va brûler la Trouma. Voilà, ça fait que Meraglé Adam chez Keneged Meraglé Behema, et sur le doute de l'urine d'un homme qui est à côté de l'urine d'un animal. C'est-à-dire que même dans le cas où on trouve de l'urine. Si c'est de l'urine d'un zave, donc elle est tamée. Donc ça, c'est un premier safek. Mais même quand on a même un deuxième safek, dit Rashi, que c'est peut-être même pas de l'urine d'un homme, mais de l'urine d'un animal. Et même dans le cas où on a trouvé cette urine à côté de l'urine d'un animal, donc on pourrait supposer que comme l'un c'est d'un animal, alors l'autre aussi c'est d'un animal, malgré tout, on considère que c'est tamé et on brûle la Touma. Donc sur tous ces cas-là, al vaday magahan, chez où safek tumatan sur fin la Touma. Si on est sûr que la Touma les a touchés, bien qu'on n'est pas sûr qu'on a un safek par rapport à la Touma, il n'y a pas de certitude que toutes ces choses-là sont tamées, comme on a dit, chacun des cas, c'est un cas de safek, mais quand on est sûr que la Touma a touché et que on a un safek si eux sont tamés, on brûle la Touma. Par contre, si on n'est même pas sûr que la Touma a touché ces choses-là, donc on ne la brûlera pas. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, « Afal safek magan birshut ayachid sorfin. » Même dans le cas où on a un doute, si la Touma a touché ou pas, si c'est dans le Rishut Ayachid, on le brûle parce que ça fait que Touma Birshut Ayachid se fait kotamé. Vachachamimurim Birshut Ayachid Tolin, Birshut Arabim Théorin. Alors que Chachamim disent que quand c'est dans le Rishut Ayachid, on suspend, dans le Rishut Arabim, c'est Taor. Donc c'est-à-dire que dans le cas où c'est ça fait que si la Touma a touché ou pas, d'après Chachamim, dans le Rishut Ayachid, on suspend, c'est-à-dire que ni on mange, ni on brûle cette Touma, et dans le Rishut Arabim, c'est Taor. Vahamaroula, et Oula a dit, Elou Shishas Fekot Boucha et Kinou. Toutes ces six cas de Safek ont été institués à Usha, donc comme on a dit, bien après le Khorban du Beth Amikdash. Et un de ces six cas, c'est Safek Afaraba Meretz Amim, donc de la terre qui provient des pays des Goïm, et on ne sait pas si elle est tamée ou pas. Donc on voit que c'est eux qui ont fait cette takana. Alors Gma a rectifié, dit comme ça. Et là, Tuinhu, Gazura Gushalit Lot, va virer avec le clou. Donc en fait, ça s'est passé en trois étapes. D'abord, il y a eu Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan qui ont fait la xéra que la terre des Goïm, si elle touche la Trouma, on suspend la Trouma, ni on la mange, ni on la brûle. Et Ve'avira Velokloum, sur l'espace des pays des Goïm, rien du tout, aucune Touma. Ve'atur Abanan des Shmonim Shana Gazur Idi Ve'idi Letlot. Plus tard, les Chachamim qui étaient 80 ans à la destruction de Beth Amikdash ont décrété que dans les deux cas, même de la Trouma qui était dans l'espace des pays des Goïm, il faut la suspendre. On ne la mange pas et on ne la brûle pas. Et après, à Usha, ils ont décrété que la Trouma qui touche la terre des Goïm, on la brûle. Pas seulement on la suspend, mais on la brûle. Et ils ont laissé la Xéra sur l'espace des pays des Goïm, comme c'était, ça veut dire que juste on est tolé, on suspend, on ne la brûle pas et on ne la mange pas. Kles Ruchit Maitama Gazur Beur Rabbanan. La Gemara demande sur les ustensiles en verre, pourquoi est-ce que les Chachamim ont décrété qu'ils recevaient la Touma, alors que Minatora ils ne reçoivent pas la Touma. Maitama Gazur Beur Rabbanan Touma. Amar Resh Lakish, il faut dire ici Amar Resh Lakish, parce que Rabbi Yochanan ne rapportait pas d'enseignement au nom de Resh Lakish, et on rapporte ici que effectivement dans les anciennes éditions c'est pas écrit Amar Rabbi Yochanan. Donc Amar Resh Lakish, Resh Lakish a dit Oil utrilat briatan minachol shavinu rabbanan kiklecheres. Comme le verre est fait au départ avec du sable, donc les Chachamim ont considéré le verre comme un kliheres, comme un ustensile en argile, de la même manière qu'un ustensile en argile reçoit la Touma, un ustensile en verre aussi, les Chachamim ont décrété qu'ils reçoivent la Touma, parce qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux. On va demander la Me'ata, l'Oté, la M'ta'arab et Mikvé. Alors si c'est comme ça, on ne devrait pas pouvoir les purifier dans le Mikvé. De la même manière que un Kli Cheres, un ustensile en argile, il ne peut pas être purifié dans le Mikvé. Ala Matnan, alors pourquoi est-ce qu'on enseigne à Mishnah Ve'ilu Chotzitsin Bakelim? Voilà les choses qui font Chatzitsa pour les ustensiles. Ça veut dire que quand on veut faire la dvila de ces ustensiles, s'il y a quelque chose qui est collé dessus, il fait Chatzitsa et la dvila n'est pas valable. Et la Mishnah dit, quelles sont les choses qui vont faire Chatzitsa? Hazefet Ve'amor Bikle Zechuchit. Donc si c'est des ustensiles en verre, le zéfet, donc le goudron et le mor, c'est une certaine matière, vont faire chatzitsa vont en fait séparer le keli de l'eau du mikvé et faire que la tevila n'est pas valable parce qu'on va considérer que le kli n'a pas été plongé dans l'eau du mikvé puisqu'il n'était pas en contact avec l'eau du mikvé puisqu'il y avait quelque chose qui était collé dessus. Donc c'est seulement ces matières-là pour le verre qui font chatzitsa. Pourquoi? Parce que le verre c'est quelque chose de lisse et les autres matières, même si elles sont sur, même si elles sont collées sur le verre, elles ne sont pas fortement collées dessus parce que le verre est lisse, donc elles vont s'en aller tout seul. Donc on n'est pas makpid là-dessus. Et pour que ça fasse ratissa, il faut être makpid. Mais par contre, le goudron et le mort, c'est des matières qui collent beaucoup. Donc même sur un ustensile en verre, ça colle. Et c'est pour ça que ça fait ratissa. En tout le cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que un ustensile en verre, on peut lui faire la tevila, puisque s'il n'y a pas de chatzitsa, ça veut dire que la tevila est valable. C'est seulement dans le cas où il y a une chatzitsa que ça pose un problème. Or, l'agmara demande, si on apprend la touma des ustensiles en verre de la touma des ustensiles en argile, ça devrait être comme les ustensiles en argile qu'on ne peut pas leur faire la tevila. Ma réponse, Chavimayaskinan, ici de quoi il s'agit dans cette Mishnah qui parle de la chatzitsa par rapport aux ustensiles en verre, Kegon shenikvu veitif letochan avar, par exemple dans le cas où cet ustensile en verre a été percé, donc quand il a été percé, il n'est plus considéré comme un keli, et donc il reçoit plus la touma, et après on a fait fondre dedans du plomb ou de l'étain pour boucher le trou. Et ça devient comme un ustensile en métal. Et ça va selon l'avis de Rabbi Meir, qui pense que tout dépend du ma'amid. C'est-à-dire ce qui permet de maintenir ce keli, c'est-à-dire ce qui permet de le reboucher et de lui donner un statut de keli, c'est le métal. Donc il a un statut de d'ustensile en métal. Et c'est pour ça que il peut être purifié dans le mikvé, contrairement au kliheres. Des Tania, comme on enseigne dans la Braïta, avar, donc des ustensiles en verre qui ont été percés et on a fait fondre dedans du plomb. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Meir metameh, Chachamim metarim. Rabban Shimon Gamliel a dit que Rabbi Meir considère que ce keli est tamé, ça veut dire que il est redevenu un keli et c'est pas comme un ustensile en argile qui, en étant cassé, a perdu sa touma. Là, c'est considéré comme un ustensile en métal, alors que Chachamim le considère comme tahor, parce qu'il considère que c'est un ustensile en verre, et un ustensile en verre percé ne perd sa touma comme un kli cheres, comme un ustensile en argile qui a été cassé. Kol tov.